Deuxième jour au Sheraton d'Eva pour les délégations politiques calédoniennes qui sont réunies à huis clos avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, et le conseiller du Premier ministre, Éric Thiers. La séquence sous forme de conclave a débuté hier en début d'après-midi et rien ne filtre, Elisabeth Noir.
En effet, la confidentialité, c'est l'une des exigences du ministre des Outre-mer pour tenter d'avancer dans les discussions pour la recherche d'un accord sur l'avenir institutionnel. C'est pour cela qu'il a souhaité enfermer toutes les délégations loin de Nouméa. On peut penser que maintenant qu'ils sont réunis à huis clos, Manuel Valls a transmis à ses interlocuteurs son nouveau projet d'accord politique et que c'est autour de ce document que se déroulent les discussions. D'après les éléments rendus publics par Virginie Ruffnac, on sait que les partisans de la France ont exprimé leur désaccord absolu face à un projet qui proposerait une souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, une sorte d'indépendance association qui prévoirait le transfert des compétences régaliennes avec délégation à l'État. On imagine donc que cette prise de position de l'État a plombé l'ambiance et que les discussions doivent être un peu tendues au Sheraton. Un accord semble en effet difficile sur la base des propositions du ministre des Outre-mer. Manuel Valls et Éric Thiers ont donc jusqu'à demain soir ou demain en fin d'après-midi pour essayer de dégager des convergences. Le ministre des Outre-mer et le conseiller du Premier ministre doivent en effet quitter la Calédonie jeudi après-midi, même si Manuel Valls a déclaré qu'il resterait le temps nécessaire. Il faudrait toutefois que des avancées sensibles aient été enregistrées pour que le ministre des Outre-mer poursuive son séjour au-delà de 10 jours. De toute façon, on ne peut qu'attendre, attendre qu'une communication parvienne depuis le Sheraton d'Eva pour savoir si les discussions progressent ou non. Mais pour l'instant, vous le disiez, rien ne filtre.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à la question d'hier et 66% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'enfermer les délégations calédoniennes en conclave est une méthode efficace pour obtenir un accord. Ils sont 34% à ne pas partager ce point de vue. Et puis voici notre question du jour. Pensez-vous que lors du conclave qui s'ouvre demain au Vatican, les cardinaux vont se mettre d'accord rapidement sur le nom du futur pape? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Le PIB a reculé de 10 à 15% en 2024, estimation rendue publique ce matin par le Sérum qui regroupe l'ISEE, l'IOM et l'AFD. Il dévoile les comptes économiques rapides pour 2023, mais au vu du contexte, les organismes scrutent l'économie calédonienne aussi pour des estimations concernant l'impact de la crise du mois de mai sur l'économie calédonienne, Nicolas Legrand.
Oui, 10 à 15% de perte de produit intérieur brut, c'est colossal, d'autant plus que cet effondrement de l'économie s'est concentré sur les 8 derniers mois de l'année. Avant cela, 2023 avait encore été marqué par le rebond post-Covid entamé en 2022. La croissance avait été de 2,8% pour un PIB estimé à 1 078 milliards de francs, avec toutefois un ralentissement en fin d'année lié à l'incertitude politique, mais aussi à l'incertitude liée au secteur du nickel et notamment de KNS. 2024 prenait la même trajectoire avant que tous les indicateurs ne basculent dans le rouge. Écoutez Fabrice Dufresne, il est directeur de l'IOM.
L'année 2024 met en évidence, notamment, même si plusieurs crises prévalaient avant les émeutes de mai 2024, qui a évidemment amplifié ces crises. Et le résultat, c'est qu'on aboutit en fait à une première estimation de la croissance, comprise entre moins 10 et moins 15%. C'est une baisse historique. Quand on reprend les baisses les plus significatives, notamment au niveau de la France, on est plutôt sur des baisses de moins 20, moins 25%, mais qu'on a enregistrées pendant les guerres mondiales. Donc c'est la plus forte baisse de perte de croissance que la Nouvelle-Calédonie n'avait jamais observée depuis qu'on réalise ce type de statistiques.
Et d'après l'ISEE, ce type de baisse du PIB avait été observé au courant des années 60. Le moral des chefs d'entreprise est donc au plus bas niveau historique de tous les Outre-mer. L'investissement du secteur privé est resté atone, tout comme celui des ménages. Le Sérum note par exemple que les crédits habitat ont reculé de 80%. En revanche, au cours de l'année 2024, quelques signaux faibles d'une reprise sont notés. La consommation s'est moins effondrée que prévu, moins 8%, alors qu'un emploi privé sur 6 a été détruit par les émeutes et que nous sommes passés pour la première fois depuis 15 ans, en dessous de 60 000 emplois privés, avec 11 000 destructions et 1 500 entrepreneurs individuels qui ont dû stopper leur activité. On retrouve Fabrice Dufresne, le directeur de l'IOM.
On a atteint un pic à fin juin. Néanmoins, il y a des signes extrêmement timides, quand même, de reprise progressive. Donc on le voit avec l'indicateur du climat des affaires, qui était vraiment au plus bas. Il remonte légèrement, mais elle est encore en dessous du niveau qu'on avait atteint au moment de la Covid. Sur la consommation des ménages, on a bien vu en fait une reprise assez sensible à la fin du trimestre de l'année 2024, qui n'est pas négligeable. Et sur les crédits de trésorerie des entreprises, il y a quand même une production qui redevient à nouveau positive. Il y a un contexte aussi inflationniste, même si les prix ont un peu progressé juste après la crise de mai 2024. On est autour de 2,2% d'inflation actuellement, donc on est plutôt dans un environnement encore favorable. Il y a quelques signes de reprise, mais ils sont extrêmement timides.
L'IEM qui note toutefois que la situation s'est aggravée pour les plus précaires. Le nombre de créances douteuses, c'est-à-dire de crédits dont le remboursement ou le paiement des intérêts par le débiteur n'est pas assuré, a fortement augmenté. Et le nombre de demandes de dossiers de surendettement a lui explosé. 91 ont été déposés sur le bureau de l'IEM en l'espace de 5 mois en ce début d'année 2025, contre une centaine sur le total de l'année 2024. Dans ce contexte, l'IEM a joué son rôle de banque centrale pour soutenir l'économie calédonienne, avec le volet de refinancement des banques ou encore en baissant ses taux directeurs à 7 reprises depuis juin 2024 pour atteindre moins 1,75%. Autre soutien à l'économie calédonienne, l'engagement de l'État avec des aides directes, mais aussi le PGE de 120 milliards de francs. Thomas de Gubernatis est le directeur de l'Agence française de développement.
Le soutien de l'État, ça a été des transferts de liquidités quelque part. Donc ça a permis effectivement de jouer le rôle d'amortisseur. Alors à plusieurs niveaux, des soutiens à hauteur de 55 milliards auprès de la collectivité, la Nouvelle-Calédonie, et qui a bénéficié aux autres collectivités d'une part, qui a permis de soutenir le dispositif du chômage partiel et du chômage classique. Par l'INERCAL de faire face à ces difficultés de trésorerie ou de soutenir les régimes. Mais il y a eu également d'autres aspects que l'on voit moins, et d'ailleurs on n'a pas forcément les données, en tout cas pas de notre côté, avec des forces de l'ordre qui sont arrivées massivement sur le territoire, qui ont fait vivre ou survivre les hôtels sur Nouméa, et pas que sur Nouméa d'ailleurs, sur tout le territoire, qui ont consommé également, donc qui ont fait un peu tourner les commerces. Donc tout ça, bien sûr, ça a participé à l'amortisseur, même si on voit que la situation du PIB telle qu'on l'estime est quand même en fort repli.
Le directeur du bureau de l'AFD à Nouméa note que pour 2025, un recul de financement de la part des collectivités semble donc attendre pour investir de nouveau. L'économie calédonienne qui reste plongée dans l'incertitude la plus profonde, le Sérum qui est convaincu que sans visibilité politique, alors l'économie ne repartira pas.
Toujours au chapitre économique, la suite de la conférence sociale et fiscale organisée par le gouvernement sous l'égide de Christopher Gigès. Les organisations syndicales ont demandé un délai supplémentaire d'une semaine pour faire leur retour sur le document final. Mais dans un communiqué, la FEDE dit dresser le constat désolant que le projet de réforme s'avère être une reprise du projet NCECO, et le syndicat dit partager certaines mesures relatives à l'emploi et au pouvoir d'achat, mais ajoute que le fondement principal de la réforme repose sur une politique libérale opportuniste qu'il juge inacceptable. En conséquence, la FEDE annonce refuser de valider et le calendrier et le plan de réforme proposé, mais sans quitter la table des discussions. Le recensement de la population est en cours. Il a débuté le 22 avril et les agents recenseurs poursuivent leur travail jusqu'au 22 mai. À mi-parcours, ou à peu près, nous avons fait le point ce matin avec la directrice de l'ISEE, Élise Desmazures, qui était notre invitée à 7h30. Pour l'instant, la collecte se déroule selon l'hypothèse moyenne de réalisation, nous a-t-elle dit. Il n'est pas toujours facile de trouver les personnes chez elle, a ajouté Élise Desmazures.
Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a la difficulté d'accès à certains ménages. Ce qu'on peut constater, c'est que les populations qu'on va toucher en premier, ce sont celles qui sont souvent présentes à leur domicile. Donc forcément, les gens qui travaillent toute la journée ou qui ont des horaires un peu spécifiques, on a un petit peu plus de mal à les trouver. L'agent recenseur, dans ces cas-là, quand il passe et qu'il n'a personne dans le domicile, il va laisser un avis de passage. Et donc les ménages ont la possibilité de prendre un rendez-vous en fonction de ses disponibilités.
Les agents recenseurs rencontrent parfois des difficultés sur le terrain et sont même mal reçus dans certains cas.
On a aussi beaucoup de remontées de terrain de nos agents recenseurs qui sont pas forcément bien reçus par la population. Donc là, je tiens à faire un appel pour que les gens les reçoivent correctement. C'est un travail qui est compliqué. C'est des agents recenseurs qui, toute la journée, vont arpenter les rues. Et c'est très compliqué pour eux qu'on leur claque la porte au nez. On peut comprendre effectivement que le contexte soit spécial. Mais voilà, on vous demande au moins d'être poli avec eux. Le recensement, c'est l'occasion de récupérer un maximum d'informations. Mais si vous êtes contre l'opération, pour une raison que personnellement je ne comprends pas, mais si vous êtes contre l'opération, ce qu'on va vous demander, c'est quand même d'accepter de répondre un minimum à ce recensement pour savoir combien de personnes sont dans le logement, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, éventuellement sur l'âge des personnes, etc. Et encore une fois, on souhaite beaucoup de courage à nos agents recenseurs et on les remercie parce qu'ils font quand même un travail formidable.
Et Élise Desmazures a rappelé que ce sont les populations recensées qui bénéficieront in fine du recensement.
Je rappelle que l'opération, c'est vraiment une opération d'intérêt public. Dans cette opération, les ménages sont à la fois les contributeurs, parce qu'effectivement, on les interroge et c'est eux qui nous donnent l'information, mais ce sont aussi les bénéficiaires. Donc c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si jamais on a trop de personnes qui ne répondent pas au recensement, on va avoir un premier écueil, c'est celui du nombre de populations qui sera erroné. Et c'est des informations qui peuvent être très importantes, même par zone. On peut très bien calibrer, par exemple, des secours pour une zone, et si jamais on a un chiffre qui est en deçà de la réalité, avoir une intervention moins efficace. En termes d'action publique aussi, on a besoin de cibler au mieux ces actions, surtout dans une période difficile avec des réductions budgétaires. Donc oui, tout le monde a intérêt à vraiment répondre à ce recensement.
Ouais, jusqu'à présent, un seul faux agent recenseur a été repéré et signalé. Rappelons que les agents recrutés par l'ISEE sont porteurs d'une chasuble et qu'ils sont munis d'une carte officielle qu'ils doivent présenter aux personnes chez lesquelles ils se présentent. 11h43, on va marquer une première pause dans ce journal. On se retrouve dans un instant pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie et notamment cette grève dans le secteur de la santé déclenchée par l'UTCFE-CGC.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Bullet avec Jardiland Nouméa. Du 5 au 25 mai, le Spa Fiji, 2 à 4 places de chez Bestway, est à 50 900 francs seulement. Alors n'attendez plus pour prendre soin de vous. Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
3 francs de remise tous les jours et le mardi c'est même 5 francs et des points accumulés.
Avec vos stations Shell et Pacifique, bénéficiez d'une remise sur le carburant de 3 francs par litre tous les jours grâce à votre carte fidélité. Et encore mieux, c'est 5 francs par litre le mardi et tous les jours que je cumule des points qui se transforment en bons d'achat. Les stations Shell et Pacifique, toujours à vos côtés pour économiser.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Le mouvement de grève chez les professionnels de santé, mouvement à l'initiative de l'UTCFE-CGC, qui a lancé donc cette grève illimitée. Elle concerne l'ensemble des personnels de santé du territoire. Le syndicat souhaite alerter sur la situation critique du système de santé et des difficultés que rencontre le personnel. Il souligne le manque d'attractivité, l'épuisement physique et mental, le manque de trésorerie, le taux directeur pénalisant et l'augmentation des besoins et de l'accompagnement de soins. Ce matin, de nombreux personnels de santé étaient rassemblés devant le grand hall du Medipôle, notamment Méline, infirmière aux urgences du SMUR.
Nous, ce qu'on veut par ce grève, c'est que les gens se rendent compte que le manque de soignants à l'hôpital et dans les dispensaires, ça entraîne un défaut de soins, une mauvaise qualité des soins, et qu'en fait, au-delà de nous, c'est toute la population qui en pâtit. C'est-à-dire que les gens arrivent très en retard pour leur prise en charge, et ils arrivent dans des états qui, parfois, ne peuvent pas être soignés. Et concrètement, les gens meurent dans le Nord ou à leur arrivée au Medipôle, parce qu'en fait, il y a un défaut de soins, on ne peut pas aller les chercher, les dispensaires sont fermés, et quand ils arrivent, c'est déjà trop tard. Donc ne pas reconnaître les agents, c'est les faire partir. Et du coup, les gens ne sont plus soignés ou mal soignés. Donc c'est aussi pour la population, et c'est avant tout pour la population qu'on fait ça.
Sur les banderoles déployées ce matin, on pouvait lire plusieurs messages. Notre combat égale votre santé, ras la seringue ou encore hôpital en stade terminal. Écoutez les témoignages de ces soignants.
C'est plutôt un appel à l'aide qu'on essaye de faire pour que tout le monde soit conscient que la santé se dégrade au point de vue de la population au niveau de l'hôpital.
Avec ce manque d'effectifs, en fait, ça fait aussi remonter le manque de reconnaissance du personnel, le manque de reconnaissance des heures qu'on effectue en plus. Le manque de reconnaissance juste par la prime Ségur qu'on n'a toujours pas. Les médecins de Nouméa l'ont et nous, on ne l'a pas en tant que personnel paramédical. C'est juste pas normal.
Pour la plupart, on travaille en demi-effectif la plupart du temps, donc au moins que ce soit reconnu. Et puis d'être payé correctement par rapport au travail effectué, au nombre d'années qu'on travaille sur le CHT.
Ce qu'on attend, c'est des réponses concrètes et surtout des mesures qui vont être mises en place.
Je tiens à rappeler qu'on a fait grève il y a un an pour les mêmes choses. Après, il y a eu les exactions et en fait, c'est rien passé. On est toujours au point mort, même pire. Donc c'est vraiment dangereux pour tout le monde. Je ne sais pas comment on peut tenir encore là, mais on est là. Donc si vous pouviez au moins bien nous traiter, ce serait une bonne chose.
Des propos recueillis par Léo Fichou, et actuellement une délégation de grévistes est reçue au gouvernement. Notez que la FPLS indique de son côté dans un communiqué que pendant toute la durée du mouvement, les professionnels de santé libéraux porteront un brassard noir en signe de solidarité. Ils n'excluent pas de se mobiliser plus fermement, y compris par la grève, si la situation reste bloquée.
À Radio Rythme Bleu, il est pratiquement 11h47.
Justice, avec le procès ce matin de 4 personnes accusées d'avoir violemment passé à tabac un militaire le soir du 7 mars à proximité du Cinécity. C'est une bande d'au moins 10 personnes, la plupart fortement alcoolisées, qui l'a frappé avant de lui dérober ses effets personnels et ses clés de voiture. Et puis justice toujours, et 5 affaires seront jugées lors de la deuxième session d'assises de l'année. Elle débute la semaine prochaine et durera 15 jours, Léana Colombo.
Oui, cette session s'ouvrira avec une affaire de viol collectif. La victime était majeure au moment des faits en 2009, mais n'a déposé plainte que 7 ans plus tard, soit en 2016. 6 individus avaient été mis en examen, mais seuls 2 accusés seront jugés dans cette affaire. Suivra ensuite la première affaire de sang, celle d'un assassinat remontant au 27 décembre 2020 à Calagomène. L'accusé a tiré à bout portant à l'aide d'un fusil dans l'aine de la victime de 21 ans avec qui il avait eu un contentieux la veille. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Les 19 et 20 mai prochains, les jurés se pencheront sur un viol sur conjoint. La peine est de 20 ans de réclusion criminelle. Les 21 et 22 mai, ce sera une nouvelle affaire de mœurs qui sera jugée avec un viol sur mineur de 15 ans. Les faits se sont déroulés à Nouméa entre 2015 et 2020 et la victime était âgée de seulement 7 ans au début des faits. Écoutez les précisions de Philippe Faisandier, procureur général de Nouméa par intérim.
Dans l'affaire du viol sur le mineur de 15 ans, comme très souvent en la matière, la révélation des faits est extrêmement tardive et souvent fortuite. Là, la révélation des faits est arrivée par un biais particulier, c'est-à-dire que l'accusé téléchargeait des vidéos pédopornographiques, et c'est à l'occasion d'une cyberpatrouille que ces téléchargements ont été détectés, qu'une enquête sous cet angle-là a d'abord été ouverte, puis les investigations ont révélé qu'au-delà de ces téléchargements, il y avait également une affaire de viol sur mineur.
L'agresseur, désormais âgé d'une 50aine d'années, est actuellement en détention provisoire. Et enfin, cette session se clôturera avec une affaire de sang. L'accusée est une femme. Elle aurait asséné un coup mortel sans l'intention de donner la mort à son conjoint après une dispute qui s'est déroulée à Nouméa dans la nuit du 9 au 10 octobre 2019. L'homme aurait tenté de revenir dans l'appartement commun après l'altercation. La femme se serait alors saisie d'une paire de ciseaux avant de lui porter un coup au sternum qui lui sera ensuite fatal. Parmi ces 5 affaires jugées, 2 sont des affaires qui ont été renvoyées de la précédente session de 2024 qui n'avait pas pu se tenir en raison des émeutes.
11h50, une nouvelle pause et dans un instant, on voit l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Simplifiez-vous la vie avec le paiement en ligne. Pas besoin de créer de compte, rapide et pratique. Allez sur www.cde.nc, cliquez sur espace client et choisissez le paiement express pour régler votre facture d'eau. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
L'actualité en métropole avec les faits divers. Le corps d'une joggeuse de 28 ans a été retrouvé dans un bois non loin de Vivonne, dans la Vienne. Elle était portée disparue depuis 3 semaines après avoir quitté le domicile de ses parents pour aller faire son jogging. D'importants moyens avaient été déployés pour la retrouver, jusqu'ici sans succès. Et c'est un promeneur qui a découvert le corps. La première autopsie n'a pas permis de déterminer la cause exacte du décès et l'enquête se poursuit. Et puis en Gironde, dans le petit village de Goriaguet, on est passé pas loin d'un drame. Un élu municipal qui demandait à des jeunes de cesser de faire du rodéo en voiture a été roué de coups, très violemment. Alexis de la Fléchère.
La mairie me l'a confirmé tout à l'heure par téléphone. Il y a parfois, c'est vrai, quelques rodéos avec des jeunes du village, mais quand on leur demande d'arrêter, ils arrêtent. Mais là, c'était une bande extérieure à la commune. Et au moment où Anthony Roland, conseiller municipal, a voulu faire cesser ses rodéos, il est très vite pris à partie et reçoit un premier coup frappé par derrière à la tête. C'est là qu'il s'écroule au sol, perd connaissance avant d'être roué de coups. C'est très violent. Aux urgences, on lui détecte de multiples fractures. Réveil douloureux pour ce conseiller municipal.
Ça me fait mal, le nez me fait mal, suivant la position que je donne à mon visage, ça me fait mal, ça me tire. Ici, c'est broyé, enfin, j'ai un trou, je suis suturé, j'ai mal, mais il ne faut pas les laisser faire. Et puis, de toute façon, je ne vais pas les laisser faire, j'irai au bout. Hein.
Et pour le maire de Gauriaguet, Alain Montangon, cela aurait pu être bien pire encore.
Moi, je considère ça comme une tentative de meurtre. On est passé à 5 cm d'un drame absolu et on risquait de perdre un élu en France samedi dernier. Hein. On a franchi un cap une nouvelle fois.
Le conseiller municipal en question a bien sûr porté plainte et une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs de l'agression.
Le mea culpa de Gérald Darmanin. Il reconnaît des erreurs d'appréciation lors de la soirée de finale de Ligue des Champions en 2022 à Paris entre Liverpool et le Real de Madrid. Le coup d'envoi du match avait été décalé en raison de troubles alors que plusieurs centaines de jeunes avaient tenté de pénétrer dans le Parc des Princes avec de faux billets. L'enquête a montré qu'il s'agissait de jeunes de Seine-Saint-Denis et non des supporters anglais, comme l'avait indiqué à l'époque Gérald Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur. Il a fait amende honorable.
Ce que je ne sais pas ce soir-là, c'est que l'essentiel de la difficulté ne vient pas des supporters anglais qui viendraient à taper des flics par hooliganisme, mais des délinquants de Seine-Saint-Denis qui font des razzias, pillent des supporters. J'ai péché par idée reçue, le coupable était facile, voilà, et moi je m'en excuse auprès des supporters de Liverpool.
Gérald Darmanin sur le média en ligne Legend. Au chapitre politique, cette enquête de l'IFOP concernant la préférence des Français pour le premier tour de la présidentielle. Le Rassemblement national arrive en tête des intentions de vote, totalisant entre 32 et 35%. Que le candidat soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Le commentaire de Fabrice Leggeri, porte-parole du Rassemblement national.
Il est évidemment patent que les idées du Rassemblement national sont présentes dans quasiment toutes les catégories socioprofessionnelles en France, toutes les classes d'âge. Et donc, on voit bien que c'est le premier parti, mais très largement, et en tout cas Marine Le Pen ou Jordan Bardella dans ce sondage, sont de toute façon les candidats préférés des Français actifs. Et donc, ça situe en réalité Marine Le Pen, Jordan Bardella, mais disons le Rassemblement national, à des niveaux d'intention de vote qui étaient ceux pour François Mitterrand juste avant son élection ou des niveaux d'intention de vote de Nicolas Sarkozy juste avant son intention. Donc ça montre que l'accession du Rassemblement national à la présidence de la République est aujourd'hui à portée de main.
Fabrice Leggeri, porte-parole du Rassemblement national, interrogé par nos confrères d'Europe 1. Après Choose France, Emmanuel Macron a organisé un événement baptisé Choose Europe for Science, choisir l'Europe pour la science, à la Sorbonne. Il a lancé un appel aux chercheurs américains qui sont dans le collimateur de Donald Trump, Arthur Delaborde.
L'Europe, décrite par Emmanuel Macron comme une terre d'accueil, un bastion de la liberté scientifique en opposition aux États-Unis de Donald Trump.
Personne n'aurait pu imaginer il y a quelques années qu'une des plus grandes démocraties du monde allait supprimer des programmes de recherche sous prétexte qu'il y avait le mot « diversité » dans ce programme. Et refusons un diktat qui consisterait à dire qu'un gouvernement puisse dire il est interdit de chercher ceci ou cela.
Le président dit lancer un appel de la Sorbonne destiné à tous les esprits libres qui veulent œuvrer pour la science. Il promet d'investir 100 millions d'euros supplémentaires.
L'objectif est du doctorant au prix Nobel en passant par les post-docs, d'accueillir autant que de besoin et avec une seule exigence de qualité des candidats. Des moyens supplémentaires seront mis en place, 100 millions d'euros que l'État apportera à travers France 2030.
Pas de quoi convaincre les syndicats du monde de la recherche qui dénoncent une goutte d'eau au vu du contexte de sous-financement en France.
Et puis on va refermer cette page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde par l'actualité à l'étranger. En bref, la riposte d'Israël d'abord, après qu'un missile tiré par les Houthis ait touché hier la zone de l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Des missiles israéliens ont frappé des sites houthis au Yémen, près d'Odeida, et notamment sur une cimenterie. Et puis tout est prêt à Rome pour l'ouverture du conclave. Mercredi, les 133 cardinaux électeurs ont participé depuis plusieurs jours aux congrégations générales qui leur permet d'échanger sur leur vision de l'Église avant de s'enfermer dans la chapelle Sixtine pour désigner le successeur du pape François. Le futur pape, rappelons-le, devra récolter les deux tiers des voix des cardinaux électeurs. 11h56, la dernière pause de ce journal avant l'actualité sportive dominée par le football à la veille des premières demi-finales. Retour de la Ligue des Champions.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et si cette année, on chouchoutait nos mamans? Jusqu'au dimanche 25 mai, joue avec Arnaud, c'est tente de lui offrir un week-end détente, une journée au spa ou un coffret de pâtisserie pour partager un moment ensemble. Réalise une recette avec ton produit Arnaud préféré et double tes chances de gagner. Pour jouer, rendez-vous dans l'un des magasins participants. Plus d'informations sur le Facebook Arnaud's Community NC. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Règlement disponible chez Maître Cyprita.
Piscine Locale, c'est le spot pour votre piscine. L'équipement, matériel de filtration et de traitement, accessoires de nettoyage, produits chimiques et analyses. Piscine Locale propose également la construction et la rénovation de votre piscine. Venez nous retrouver au 87 route du Port des Pointes, Faubourg Blanchot, le magasin des quartiers sud, au 31 85 68.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
J-1 en football, avant la première demi-finale, retour de la Ligue des Champions. Demain matin à 6h, l'Inter de Milan recevra le FC Barcelone, Léana.
Les Italiens qui devraient compter sur le retour de leur capitaine, Lautaro Martinez. Il a pris part à l'entraînement collectif ce lundi. En revanche, mauvaise nouvelle pour le Français Benjamin Pavard. Déjà absent au match aller pour une blessure à la cheville gauche, il manquera aussi le match retour. Du côté des Espagnols, Robert Lewandowski sera bien disponible, mais sans doute sur le banc. Les Blaugranas s'en remettront donc à leur jeune prodige, Lamine Yamal, 17 ans seulement. En défense, Jules Koundé sera absent, touché à la cuisse gauche lors du match aller. Et à l'aller, justement, le Barça et l'Inter nous avaient offert un match spectaculaire qui s'était terminé sur le score de 3 buts partout. Et tout est encore à faire dans cette demi-finale retour qui se jouera demain matin à 6h, heure de Nouméa.
Inter Milan Barça, c'est donc demain. Et puis jeudi matin, ce sera le tour du PSG qui ira défier Arsenal.
Là aussi, le coup d'envoi sera donné à 6h jeudi matin donc. Après avoir battu les Gunners chez eux à l'Emirates Stadium, 1-0 à l'aller, les Parisiens seront à domicile au Parc des Princes. Et les joueurs de la capitale pourront compter sur le retour d'Ousmane Dembélé, seul buteur au match aller. L'attaquant tricolore a participé à la dernière séance collective du PSG, le Paris Saint-Germain qui, en cas de victoire ou de match nul jeudi, se qualifiera pour la deuxième finale seulement de son histoire après l'édition 2019-2020. Finale perdue 1-0 contre le Bayern Munich. Mais attention, rien n'est fait. Arsenal n'a qu'un but à inscrire pour remettre les compteurs à zéro.
Et on termine avec un petit mot de tennis avec le Calédonien Maxime Chazal qui a enchaîné 2 victoires lors des qualifications sur le Challenger de Prague en République tchèque. Il accède donc au tableau principal et au premier tour, le Calédonien qui est 326e à l'ATP rencontrera le Kazakh Beybit Zoukaïev, 220e joueur mondial qui reste sur 4 défaites consécutives. 11h59, c'est la fin de ce journal.